Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, nous nous intéressons aux belles histoires de la médecine et tout particulièrement à la grande histoire de Pasteur et ses lieutenants. Pour en parler, nous avons Maxime Schwartz, qui fut le directeur de l'Institut Pasteur pendant 12 ans, mais qui surtout a écrit avec Annick Perrault, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, trois livres passionnants autour de Pasteur, publiés chacun chez Odile Jacob, et qui nous raconte donc les aventures, les mésaventures et les découvertes que vous pourrez faire en lisant calmement ce livre ou en écoutant bien sûr cette belle émission. Bonsoir Maxime Schwartz.
Bonsoir monsieur.
Alors nous voilà donc dans un monde particulier, celui de la découverte des microbes qui n'était pas connu dans la fin du 19e siècle et qui va révolutionner l'ensemble de la médecine, qui va être une étape fondamentale. Vous êtes de formation biologiste moléculaire ? Et vous avez donc écrit déjà un certain nombre de livres qui sont aussi bien autour des vaches folles, comment les vaches sont devenues folles, des microbes et des hommes, et puis la découverte du virus du sida en compagnie de Jean Castex, vous avez écrit cela. Mais là, donc, on est autour de trois livres, et peut-être y en aura-t-il d'autres, vous nous direz tout à l'heure, autour de la personne de Pasteur. Alors, vous étiez aussi récemment directeur de l'exposition sur Pasteur et l'expérimentateur, et c'est quelque chose qui a été tenu au Palais des Découvertes, que vous avez piloté et montré un certain nombre de documents d'un Pasteur qui était aussi un artiste, hein, qui aimait bien la représentation colorée, on va dire, ou la représentation en tout cas du dessin. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette exposition ?
Bien, tout d'abord, je dirais, donc j'étais commissaire scientifique de cette exposition, je n'étais pas le commissaire. Et puis, un petit détail qui a son importance, c'est que ce n'est pas Pasteur qui a découvert les microbes. Ils ont été découverts à la fin du XVIIe siècle par un Hollandais qui s'appelait Van Leeuwenhoek.
Il a inventé le microscope ?
Oui, enfin, qui a... disons, beaucoup amélioré le microscope. Mais ce qu'a fait Pasteur, c'est vraiment de montrer que les microbes étaient absolument partout autour de nous. Et je compare souvent Pasteur à Christophe Colomb. Je considère qu'il a découvert un nouveau monde. Ce monde, il existait. Et c'est lui qui nous a montré qu'on vivait au milieu de microbes. Ils étaient partout, dans l'air, dans l'eau, sur les surfaces, etc. Alors pour en revenir à l'exposition, vous avez mentionné ce côté artiste de Pasteur. C'est un fait que dans son enfance, Pasteur aimait beaucoup, en fait, les pastels. C'est surtout des pastels qu'il a fait pour commencer. Le premier pastel qu'il a fait représentait sa mère, et il avait 13 ans. Et le dernier qu'il a fait représentait son père, alors qu'il avait 20 ans. Et entre les deux, il a fait donc toute une série de portraits en pastel qui sont tout à fait remarquables et qui valent la peine d'être vus. On peut d'ailleurs en voir à l'Institut Pasteur en particulier. Et une chose qui est assez intéressante et peu connue, c'est que il se pourrait que ce côté artiste de Pasteur ait été à l'origine ensuite de ses premiers travaux scientifiques. En effet, après avoir fait des pastels, il a aussi fait des lithographies. Or, dans les lithographies, on dessine son dessin sur de la pierre et ensuite, en ayant ancré la pierre, on a le dessin final par application de la pierre sur un papier. Donc, le dessin final est comme l'image dans un miroir du dessin initial. Or, la première découverte de Pasteur, qui a conduit à ce qu'on a appelé les travaux sur la dissymétrie moléculaire, ça a été de se rendre compte qu'il existait deux formes d'un produit qui s'appelait le tartrate, et que ces deux formes pouvaient se distinguer par le fait que leurs cristaux, qui avaient l'air à première vue identiques, en fait étaient comme l'image l'un de l'autre dans un miroir, et ça se voyait à cause de facettes qu'il y avait dans cette symétrie. Et c'est donc à partir de ça que s'est enclenchée toute sa carrière scientifique.
Parce que cette dissymétrie va en faire le point d'angle, si je puis dire, de l'organisme vivant.
Oui, parce que en fait, ces molécules-là qui sont identiques en composition, mais qui sont comme l'image l'une de l'autre dans un miroir, il a eu l'intuition que les molécules faisant ces deux sortes de produits étaient elles-mêmes comme l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et c'était la première fois qu'on commençait à penser les molécules en termes d'objets tridimensionnels. Avant, c'était un peu des sacs à atomes et on ne s'occupait pas du tout de la position des atomes. Et ça, donc, il a commencé à se préoccuper de la forme des molécules. Or, aujourd'hui, en biologie moléculaire, eh bien, toutes les interactions entre molécules qui sont responsables de tous les phénomènes de la vie sont basées sur la forme des molécules. Si deux molécules vont interagissent, c'est parce que leurs formes sont complémentaires, comme une clé dans la serrure.
Donc un pasteur physicien, pasteur artiste, et effectivement, dans le livre que vous avez écrit avec Annick Perrault, un des livres, donc Pasteur et ses lieutenants, que nous détaillons un peu maintenant, nous voyons comment il va passer des cristaux aux microbes, quoi, justement, dans son histoire. Et il va recevoir une décoration à la Légion d'honneur très jeune, à 30 ans. C'est quand même un être assez exceptionnel, ça on le sait avec toute son activité, mais je veux dire, très jeune, il est passionné par ses recherches et découvertes, mais rien ne le prédestinait à rentrer, on va dire, dans la phase de la grande médecine, quoi.
Ah non, pas du tout. Il était dans une famille relativement modeste, de tanneur dans le Jura, qui était né en 1822, et initialement, il avait voulu être pastelliste, justement, se promener de ville en ville et faire des portraits des gens importants. Puis c'est son père qui, lui, le voyait entrer dans l'enseignement et qui voulait le voir, en quelque sorte, proviseur du lycée d'Arbois, puisque c'était à ce moment-là, là qu'ils habitaient. Et puis, progressivement, eh bien, il est devenu un très bon élève. Assez tard, il est entré à l'école normale, et c'est à partir de là qu'il est devenu chimiste ou physico-chimiste, on dirait aujourd'hui,
oui.
Et que ses travaux sur les cristaux, le tartrate, etc., ont ensuite débouché sur les travaux sur les microbes. Et là, les microbes, au début, c'était pas du tout la médecine. Les microbes, il a d'abord montré que les microbes
c'était
étaient
la fermentation.
C'est ça, il a montré qu'ils étaient responsables de la fermentation. La fermentation, on connaissait ça depuis très longtemps. Comme ça qu'on fait du vin, de la bière, du vinaigre, le pain, le yaourt, etc. Mais personne ne savait vraiment comment ça se faisait. Et c'est Pasteur qui a montré que les phénomènes de fermentation étaient dus à des microbes et que chaque fermentation avait son microbe particulier. Et d'ailleurs, ça a débouché sur une application pratique très importante. C'était à propos du vin. On constatait que le vin se conservait mal. On sait que le vin peut devenir du vinaigre, par exemple, si on ne fait pas attention. Et il a compris que c'est quand le vin avait ses maladies, quand il devenait mauvais, c'est parce qu'il y avait des mauvais microbes dans le milieu. Et il a eu l'idée de chauffer pendant, disons, à 60 degrés pendant un court temps, son vin, et du coup, ça détruisait les mauvais microbes et le vin pouvait se conserver. Et ce procédé qu'il a appliqué d'abord au vin, c'est ce qu'on a appelé la pasteurisation, que tout le monde connaît et qui a joué un rôle très important dans la conservation des boissons et des aliments en général.
Alors, il y a un débat aussi qui va émerger très vite sur la bataille autour de la génération spontanée. C'est-à-dire, est-ce que les microbes existent par eux-mêmes, ou bien est-ce qu'ils se créent à un moment donné dans un milieu confiné?
Oui, pas mal avant Pasteur, on imaginait qu'il y avait génération spontanée, par exemple, de souris dans des vieilles chemises qu'on laissait traîner au grenier. Bon, ça, on n'y croyait plus trop du temps de Pasteur. Par contre, quand il y avait donc l'apparition de ces microbes dans les milieux en fermentation, eh bien, les gens pensaient qu'il y avait génération spontanée de ces microbes à partir du milieu. Et Pasteur est arrivé à démontrer que c'était pas du tout le cas, et qu'à chaque fois que des microbes se développaient dans un milieu, ils venaient d'ailleurs, et notamment de l'air, et que c'était des expériences mal faites qui faisaient qu'il y avait contamination des milieux par les microbes de l'air. Et c'est d'ailleurs en montrant que toutes les expériences prétendant prouver la génération spontanée était fausse, qu'il est arrivé à cette constatation qu'il y avait des microbes partout, à commencer dans l'air que nous respirons tous les jours.
Alors, il va passer, comme on l'a vu, il s'intéresse aux cristaux, puis il va passer un peu aux animaux, avec en particulier la première contact avec la maladie, c'est des animaux qui ont la maladie du charbon.
Il y a eu avant. Avant ça, il y a eu les vers à soie.
Les vers à soie, c'est vrai. Vous avez raison. Allez-y.
Ça a été, en fait, c'est pas spontanément qu'il y a été. Alors qu'il n'avait fait que des travaux sur les fermentations, etc., il a été appelé à s'occuper des maladies des vers à soie parce que la production de soie dans la vallée du Rhône était dans un état catastrophique, les vers à soie mouraient et on a demandé à Pasteur de s'en occuper. Il ne connaissait absolument rien aux vers à soie, mais on lui demandait, il a dit c'est pour l'important, pour le bénéfice de la nation, je vais y aller. Et il lui a fallu 5 ans pour arriver à comprendre que ces maladies, en fait il y en avait 2, étaient dues très vraisemblablement à des micro-organismes, et il a trouvé des moyens pour éviter la transmission de la maladie dans les élevages de vers à soie, et ce qui a sauvé à l'époque la sériciculture. Mais ça a été son premier contact avec des maladies, alors c'était des animaux un peu loin de nous, c'était des vers à soie, mais beaucoup de principes de base, comme le principe d'hygiène, la possibilité de transmission de génération en génération, etc., tout ça, il en a pris conscience en étudiant les vers à soie. Ça n'est qu'ensuite qu'il a commencé à travailler.
Alors pourquoi on lui demande sur la maladie du charbon qui touche à l'époque 20-30% des bovins, des ovins
Oui, alors la maladie du charbon, d'abord, c'était un très très grave problème, puisque dans certaines régions, effectivement, on avait 20-30, quelquefois 50% des animaux qui mouraient de cette maladie, brutalement. En plus, il y avait cette notion de champ maudit, c'est-à-dire que quand il y avait eu cette maladie dans un champ, eh bien, on constatait que les années suivantes, eh bien, la maladie revenait toujours dans ces champs qu'on appelait les champs maudits. Alors, il n'osait pas trop se mettre à étudier ça parce que, bon, il n'était pas médecin, il n'était pas vétérinaire, il n'osait pas trop s'en servir. Mais ce qui a fait qu'il a commencé, parce que à l'époque, il avait déjà lancé ce qu'on appelait la théorie, ce qu'il appelait la théorie des germes dans le cas des fermentations, dont je viens de parler, aussi la putréfaction, et il avait émis l'idée que pour les maladies infectieuses, ça pourrait aussi être la même chose, que les maladies infectieuses pourraient aussi être dues à des microbes, avec chaque maladie son microbe. Mais il n'avait pas vraiment démontré, et même dans le cas des vers à soie, c'était une intuition, mais c'était pas montré encore très clairement. Mais voilà qu'un jeune médecin allemand, totalement inconnu, qui s'appelle Robert Koch, qui avait 20 ans de moins que lui, publie un article à la fin de 76 en prétendant que le charbon était dû à un microbe qui s'appelle aujourd'hui Bacillus anthracis. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'anthrax quelquefois en français. Donc Bacillus anthracis, et ce médecin non seulement avait apporté des arguments assez forts pour dire...
Koch était médecin, lui.
Koch était médecin, mais c'était un médecin de campagne, coupé de tout le reste. Mmh. Et donc il avait des arguments assez convaincants qu'un microbe particulier qu'il avait vu au microscope était le responsable de la maladie, et en plus il a montré que ce microbe, eh bien, il pouvait donner ce qu'on appelle des spores, c'est-à-dire des formes déshydratées du microbe qui était extrêmement résistant et pouvait survivre pendant des années. Longtemps. Donc c'était une explication possible de ces fameux champs maudits. On pouvait dire que les spores vont rester là et c'est ça qui va transmettre la maladie. Eh bien, Pasteur, il n'était pas très content de ça. Parce que d'abord, la théorie des germes, c'était la sienne. Il n'était pas très content qu'un autre prétende la démontrer. Deuxièmement, cet autre, c'était un médecin inconnu, alors que lui était déjà devenu quelqu'un de célèbre. Et puis enfin, cet autre, c'était un Allemand. Voilà. Et à l'époque, depuis la guerre de 70, eh bien, Pasteur, il n'aimait pas beaucoup les Prussiens et les Allemands. Donc, il s'est mis au travail. Il a considéré que les expériences de Koch n'étaient pas tout à fait convaincantes. Et il a fait des expériences qui, effectivement, étaient plus convaincantes. Et on peut dire qu'à eux deux, ils ont démontré de façon absolument claire que ce microbe particulier était responsable de cette maladie. Et il faut ajouter quand même le point essentiel, c'est que non seulement ils avaient résolu le problème pour le charbon, mais c'était la première fois qu'on démontrait de façon absolument claire qu'un microbe donne une maladie.
Vous avez, sur ce thème-là de la relation Pasteur et Koch que vous avez abordé, survolé là, à l'instant même, écrit avec toujours Annick Perrault et publié chez Odile Jacob, un livre, Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes, hein, qui reprend beaucoup plus en détail, parfois un peu comme un roman, hein, ça se lit entre... Parce qu'effectivement, il y a ce nationalisme franco-allemand, enfin chacun d'un côté, il y a cette compétition, cette différence d'âge, mais en même temps, une grande capacité, et au total, l'humanité va bénéficier des deux, ça c'est clair. Mais pendant le vécu de leur histoire, il y a une émulation, parfois un peu plus.
Oui, c'était une compétition féroce, une rivalité, disons, mais je pense que c'est un très bon exemple de compétition positive, c'est-à-dire que malgré tout, chacun a été honnête, même s'ils se sont envoyés pas mal d'injures à la figure, et ça fait une émulation que chacun a essayé de faire mieux.
Et est-ce qu'ils se sont trouvés ensemble par moment dans des congrès ou dans les... Ils se sont visités?
Ils se sont vraiment rencontrés et parlé une fois, un congrès de Londres en 1881, où à ce moment-là, Pasteur avait fait un discours où il avait trouvé que Koch n'avait pas suffisamment cité ses propres travaux à lui, Pasteur, d'où, par contre, Koch est parti en étant furieux que Pasteur n'ait pas suffisamment cité ses propres travaux. Vous voyez, c'est typiquement le genre de compétition qu'il peut y avoir entre les scientifiques. Et ensuite, l'organisateur du colloque a pu convoquer les deux dans son laboratoire et Koch a pu montrer ses nouvelles techniques de photographie de microbes au microscope et d'isolement de bactéries sur ce qui est devenu les boîtes de Pétri. Et Pasteur a dit à Koch, c'est un très grand progrès, monsieur. C'est la seule phrase qui nous soit restée que Pasteur ait dite à Koch. Alors ensuite, ils se sont vus une autre fois l'année suivante à un congrès à Genève, où là, ça a été une opposition féroce, mais Pasteur a fait son discours, il a attaqué Koch, et Koch n'a pas voulu répondre, parce qu'en fait, il y en a un qui parlait allemand, l'autre qui parlait français, il n'avait pas encore l'anglais comme langue commune, donc il n'y a pas eu vraiment d'échange direct. Donc la seule fois où il se soit parlé, ça a été en 1881. Mais à part ça, il y a eu des échanges de courriers virulent dans les deux sens.
Et alors, est-ce que par contre, vous avez parlé tout à l'heure du côté hygiène, l'importance pour Pasteur de développer tout le mouvement hygiéniste, mais est-ce que Pasteur a cité Samuel Weiss ?
N'est pas sûr qu'il ait eu connaissance de son existence. À aucun moment il n'est fait mention de Semmelweis. Semmelweis, effectivement, avait constaté que, bon, c'était des histoires de maternité, où il y avait des maternités...
La fièvre qui tuait beaucoup.
Bon, la fièvre puerpérale qui tuait à la fois les mères, surtout les mères et les enfants, qu'il y avait une autre clinique où ça n'avait pas lieu, et il a compris que la raison des décès fréquents dans la première clinique, c'était que les élèves, les jeunes médecins passaient directement de l'autopsie à l'examen des malades, qui ne se désinfectaient absolument pas les mains et qui transmettaient comme ça les microbes. Donc il a eu l'idée, mais on ne parlait pas encore de microbes à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Lui, il va développer donc l'hygiène, mais sans du tout connaître l'existence...
Sans connaître les microbes. C'était des miasmes ou je ne sais quoi. Mais il a été très très mal considéré par les médecins de l'époque, parce qu'il s'agit essaient de remettre en cause leurs pratiques et supposer que c'était eux qui étaient responsables de la mort des patients. Donc, il a été ignoré. Il a fini par mourir fou. C'était catastrophique. On ne sait pas si Pasteur a eu connaissance de l'existence de Semmelweis.
En tous les cas, dans cette... on voit bien pour l'histoire de Semmelweis qu'il avait vraiment une opposition très forte. Est-ce que Pasteur a eu, lui aussi, dans son existence, des oppositions très très fortes?
Il a eu énormément d'oppositions très fortes. À chaque fois qu'il a fait une découverte, un nombre très important de personnes l'attaquaient pour diverses raisons variées, quelquefois pour dire que c'était déjà découvert avant, d'autres fois pour dire que c'était ridicule, enfin, ça n'est pas la route. Enfin, donc, à chaque étape de sa carrière, il a eu des oppositions énormes. Celle avec Koch n'en était qu'une, mais il y en a eu beaucoup. Celle avec Koch était au moins intelligente, d'autres étaient absurdes.
Alors, il y a l'histoire d'ailleurs... vous décrivez très bien toujours dans ce livre Pasteur et ses lieutenants, avec Annick Perrot, et publié chez Odile Jacob. Vous publiez cette passe d'armes qu'il y a avec un certain monsieur Rossignol, autour de la vaccination, enfin, par rapport à la variole, où ils vont faire il va démontrer par une expérience, en mettant donc des moutons, 25 moutons d'un côté, 25 moutons de l'autre, qui vont être immunisés, et les autres non. Et les autres vont mourir, ceux qui ne sont pas protégés, et il va démontrer l'importance chez l'animal, on n'est pas encore chez l'homme, mais on est déjà chez l'animal, de la protection par la vaccination.
Bon, il ne s'agissait pas de variole, mais de charbon. En fait, mon Pasteur, dans une première étape, s'est intéressé au rôle des microbes dans les maladies, ce travail qu'il a fait en parallèle avec celui de Koch. Et après, très rapidement, il a voulu essayer de protéger contre ces maladies. Et il avait toujours en tête ce travail alors sur la variole qui avait été fait par Jenner un siècle plus tôt, où Jenner avait montré que si on inoculait une maladie bénigne des vaches, qui s'appelait la vaccine, si on inoculait ça à des gens, ensuite ils étaient protégés contre la variole. S'il avait fait cette expérience, Jenner, c'est qu'il avait constaté que au moment d'épidémie de variole, ça c'était en Grande-Bretagne, eh bien les vachères qui donc trahiaient les vaches qui avaient cette maladie de la vaccine et qui avaient des espèces de pustules sur le, les vaches avaient des pustules sur l'épi et les vachères avaient quelques pustules sur les bras, eh bien ces vachères là, ensuite elles n'attrapaient pas la variole alors que tout le monde autour d'elle attrapait la variole. Donc c'est là qu'il avait eu l'idée que la maladie des vaches, la vaccine, pourrait protéger contre la variole. Et il a effectivement inoculé sciemment la vaccine à un enfant pour la première fois, c'était en 1796, et ensuite il lui a inoculé la variole et il n'a pas eu du tout eu la variole. Bon, ça peut vous étonner qu'on inocule la variole, mais avant, on faisait même la variolisation, donc, à l'époque, c'est-à-dire qu'on donnait la variole aux gens, une variole qu'on s'arrangeait pour être bénigne, pour les protéger ensuite. Donc, Wegener avait montré ça. Alors, quand Pasteur avait en tête l'idée, puisque là, lui, il savait que ce que Jenner ne savait pas, lui savait que les maladies infectieuses étaient dues à des microbes, il s'est dit, la vaccine, la maladie de la vache, c'est peut-être une forme atténuée de la variole. Et si c'est le cas, peut-être qu'on peut avoir des formes atténuées
de
toutes les maladies et protéger ensuite. Et c'est
donc ainsi. Il va prendre ce principe de vaccine variole sur le charbon.
D'abord sur la choléra des poules et ensuite sur le charbon. Et c'est là sur le charbon qu'effectivement il a fait des expériences, il a relaté à l'Académie des sciences qu'avec des bacilles du charbon atténuées, il arrivait à protéger contre le charbon virulent. Et alors Rossignol, qui était un vétérinaire qui croyait pas trop à ses expériences, a dit chiche, venez donc faire votre expérience. Et Rossignol a mis à la disposition de Pasteur 50 moutons et Pasteur a fait vacciner la moitié, comme vous l'avez dit, 25. L'autre moitié n'a pas été vaccinée. Quelques temps plus tard, on a donné du microbe virulent aux 50 et les 25 vaccinés ont survécu. Et les 25 non vaccinés n'ont pas survécu. Et ça, cette expérience a été faite devant une population considérable, y compris la presse. Ça s'est répandu dans toute la France et dans le monde. Et on a commencé à croire sérieusement à sa théorie de la vaccination avec des microbes atténués.
Alors, il est sûr qu'autour de Pasteur, il y a une hécatombe de personnes qui sont atteintes par des infections. Il va vivre avec des infections. Il va perdre deux filles de la typhoïde, une sœur de la tuberculose. Et d'ailleurs, tous ces lieutenants dont on va parler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, la plupart vont contacter des choses, que ce soit la tuberculose, et lui-même d'ailleurs va être aussi confronté à la maladie parce que assez jeune, il va faire un accident vasculaire cérébral dont il va récupérer, mais après, il va en faire deux puis trois. Donc on est maintenant d'un Pasteur qui va toucher de près la médecine, l'acte médical et qui va développer d'ailleurs un peu plus tard l'Institut Pasteur et l'hôpital Pasteur pour essayer de s'occuper de ces petits malades pour les enfants, pour la diphtérie dont nous allons parler dans le détail parce que c'est absolument passionnant.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Vous êtes sur France Culture en compagnie de Maxime Schwartz, biologiste moléculaire, ancien directeur général de l'Institut Pasteur et surtout auteur de livres passionnants, des romans autour de Pasteur et de ses lieutenants. Et tous ces livres sont faits avec Madame Annick Perrault et sont publiés aux éditions Odile Jacob. Alors, nous venons de faire un peu la première partie de la vie de Pasteur avant le grand moment qui est le moment de la découverte. La rage était connue, mais je veux dire le traitement, la prévention de la rage, après avoir écouté donc flûte et harpe de Mozart, puisque vous êtes un ancien, peut-être toujours, un flûtiste passionné en tous les cas. Joseph Meister, qui ne connaît pas ce nom de ce jeune homme, on est en 1885, et dites-nous, Maxime Schwartz, un peu comment se fait cette première action thérapeutique chez l'humain.
Oui, Pasteur avait donc convaincu beaucoup de monde de la validité de ses théories de vaccination avec des microbes atténués. Mais il y a une catégorie de gens qu'il n'avait pas convaincu, c'était les médecins, qui ne voyaient pas très bien, d'un très bon œil, ce qu'ils appelaient ce chimiatre se mêler de maladies. Désolé, monsieur, vous êtes médecin, moi. Et il a compris qu'il fallait s'attaquer à une maladie qui concernait les hommes notamment. Et c'est là qu'il a décidé de se mettre à étudier la rage, qui avait l'avantage d'être à la fois animale et humaine, puisqu'on ne pouvait contracter la rage quand on était mordu par un chien enragé. Bon, il a eu beaucoup de mal dans ses travaux, pour simplifier, jusqu'à l'art, il avait travaillé avec des microbes qui étaient des bactéries, donc qui pouvaient se développer sur des milieux de culture, qui pouvaient se voir au microscope. Il se trouve, mais il ne le savait pas, que la rage était due à ce qu'on appelle un virus, qui est beaucoup plus petit et qui ne peut se développer qu'à l'intérieur d'autres cellules. Il ne peut pas donner des colonies sur une boîte de pétri. Donc ça lui a donné beaucoup de difficultés. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a cultivé, entre guillemets, son virus, donc en le faisant passer d'animal en animal. Et les animaux qu'il a utilisés, c'était des lapins. On pouvait donc transférer, on faisait ça à partir de cerveau ou de moelle épinière, puisque c'est dans le système nerveux que ce virus se développe. Donc il a pu transférer comme ça d'animal, de lapin en lapin, son virus. Et au bout du compte, il avait donc une souche de virus qui cultivait sur lapin. Et ensuite, il fallait atténuer ce virus, et il a fait ça en prenant la moelle épinière des lapins qui venaient de mourir de la rage, et en la faisant dessécher un certain temps, et il se trouvait que la virulence disparaissait dans ces moelles épinières. Alors, il pensait qu'il atténuait le virus, en fait, il a compris assez vite que ce qu'il faisait, c'est qu'il détruisait le virus. Et ça va aboutir à quelque chose de très important, c'est qu'on peut vacciner non seulement avec des microbes atténués, mais aussi avec des microbes tués, et puis ultérieurement, ça sera même des morceaux de microbes qu'on utilisera pour les vaccins. Bon. Mais donc, il est arrivé à atténuer le pouvoir de donner la rage dans ces moelles épinières. Alors ensuite, on broyait ces moelles épinières dans un peu d'eau stérile. Et avec ça, il a fait sa vaccination d'abord sur des chiens, de nombreux chiens, où ça avait l'air de bien marcher. Avant qu'il ait tout à fait terminé ses résultats, voilà qu'on lui amène ce fameux Joseph Meister, cet enfant alsacien qui a été très gravement mordu. Et là, la question se pose de savoir s'il va pouvoir inoculer son vaccin chez un être humain et voir si ça le protège contre la rage qu'il risque fort de contracter vu qu'il a été mordu par un chien enragé. Alors ça a été une décision difficile, il est conseillé par des médecins et en définitive, le 6 juillet 1885, ils ont inoculé ce vaccin. Alors, c'était compliqué parce que ça se faisait en plusieurs inoculations successives avec un vaccin de moins en moins atténué. Il terminait avec un vaccin qui n'était pas du tout atténué, ce qui était quand même assez dangereux. Mais le jeune n'a pas attrapé la rage. Alors après, Joseph Meister, il y en a eu d'autres. Il y a eu un jeune berger du Jura aussi qui s'appelait Jean-Baptiste Jupille. Et après le résultat obtenu sur Jupille, il y a eu beaucoup de publicité qui a été faite. Et les gens du monde entier sont venus se faire vacciner.
Il y a un groupe de Russes en particulier.
Oui, les Russes, c'est un petit peu plus tard. Mais il y a eu un groupe d'Américains, par exemple, qui sont venus de Newark. Et ça a été très mis en valeur aux États-Unis. Et ce qui a vraiment fait connaître Pasteur aux États-Unis à l'époque. Donc, au mois de mars suivant, donc la première vaccination, c'était juillet 85, la deuxième, c'était octobre 85, et le 1er mars 86, il peut annoncer à l'Académie des sciences qu'il a vacciné 350 personnes avec un seul échec. Et alors, à ce moment-là, l'Académie a été enthousiaste, a lancé une campagne de collecte de fonds nationale et même internationale. Et c'est ça qui a permis d'édifier l'Institut Pasteur, qui initialement devait être pour traiter les personnes mordues par des animaux enragés pour les vacciner. Mais vu les sommes recueillies, on a pu élargir les objectifs et c'est devenu un centre de recherche sur les maladies infectieuses, un centre de vaccination contre la rage et un centre d'enseignement.
Alors, dans votre livre « Pasteur, c'est le temps », il y a des illustrations. Et il y a une illustration où on voit l'Institut Pasteur, ou ce qui était peut-être le projet, avec les mordus. Hein, c'est-à-dire, ça attire les mordus du monde entier par les animaux avec le risque de rage qui viennent donc essayer de se faire soigner avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, on est donc dans cette action, on va dire, fondatrice quand même, connue par tout le monde de l'action de Pasteur. Mais il y a d'autres maladies et il y a d'autres lieutenants, on va dire, entre guillemets. Le mot lieutenant que vous utilisez, bien sûr, font penser à cette espèce de guerre, à la maladie, de guerre aux microbes. Et on a quand même des personnages assez extraordinaires, comme Émile Roux, comme, je dirais, Metchnikov, dont on va dire un mot parce qu'ils sont hyersins, qui sont vraiment des histoires passionnantes. Ce qui est assez extraordinaire, je trouve, à la lecture de ce livre, c'est de voir que l'Institut Pasteur est aussi le lieu d'habitation, le lieu d'échange. Et c'est une espèce de... Enfin, moi, j'ai vécu comme un phalanstère. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des relations extrêmement proches. On va voir, par exemple, très proches d'ailleurs, puisque Roux va aller à un moment donné habiter chez Metchnikov et va être très proche avec la femme de Metchnikov, on va dire. Voilà, il y a différentes proximités, mais une proximité intellectuelle, elle est certaine. Il y a une ouverture, il y a une volonté de... Il y a une école qui se crée.
Ah, il n'y a aucun doute. On les appelle les pasteuriens. Et on disait les pastoriens. Maintenant, on dit plutôt les pasteuriens. Ça existe encore d'une certaine manière.
Vous voulez dire l'esprit pasteurien?
On dit, oui, l'esprit pasteur.
Non, mais je veux dire, ce qui existe encore, c'est ce lien.
D'appartenance, c'est sûr. Enfin, il était sans doute plus fort à l'époque, parce qu'en plus, oui, il y avait moins de monde. Bon, si tu pasteur au début, il devait y avoir une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, il y en a 2500, donc c'est pas la même taille. Sans compter tout le réseau international des instituts pasteurs. Donc, effectivement, il y a eu d'abord Duclos, quoi, qui est moins connu. Parce qu'il a pas fait à proprement parler de grandes découvertes. Mais ça a été le premier. Il avait peut-être que 10 ans de moins que Pasteur, si je me trompe. Il a beaucoup fait pour diffuser les idées pasteuriennes. Il a fait des choses importantes, mais pas aussi peut-être importantes que les autres. Il a été le premier directeur de l'Institut Pasteur après que Pasteur soit mort. Mais il a créé, par exemple, les annales de l'Institut Pasteur, qui a permis de diffuser les travaux de l'Institut Pasteur à l'époque. Il a écrit le premier grand traité de microbiologie. Enfin, il a fait des choses de ce genre-là. Ensuite, bon, il y a Roux qui était...
Alors, c'est un drôle, le personnage, Roux.
Oui, Roux...
Un bel homme.
Sans doute, oui.
Sur la photo.
Non, c'est sûr. Bon,
et il va s'attaquer à... Enfin, pas seul, mais il va quand même s'attaquer beaucoup à la diphtérie.
Oui, alors en fait, les premiers travaux sur la diphtérie, ils datent du moment où l'Institut Pasteur s'est ouvert. L'Institut Pasteur, c'est 14 novembre 1888, c'est l'inauguration. Et c'est en 1888 qu'il a rapporté la découverte avec un autre pasteurien, dont on dira deux mots, qui est Alexandre Hyersin, la toxine diphtérique. C'est-à-dire qu'il a montré pour la première fois que si le microbe de la diphtérie qui avait déjà été identifié donnait la diphtérie, c'est parce que ce microbe sécrétait un poison qu'on a appelé la toxine diphtérique. Donc ça a été une première étape extrêmement importante. Ensuite, alors c'est les Allemands de l'équipe de Koch qui ont fait la deuxième étape, toujours les mêmes, mais vraiment c'est l'équipe de Koch et Pasteur qui ont été les précurseurs dans tout ce domaine, qui ont montré que on pouvait immuniser des animaux contre la diphtérie en leur inoculant une toxine un peu inactivée. Immunisée, c'est-à-dire qu'ensuite, si on voulait leur donner la diphtérie avec les microbes, ils ne l'attrapaient pas. Mais plus encore, ils ont constaté que dans le sérum, donc dans le sang de ces animaux immunisés, il y avait un antipoison, une antitoxine. Et donc, c'était sans doute pour ça qu'ils étaient protégés. Alors, qu'est-ce que c'était que cet antipoison? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les anticorps. Mais avant, on ne savait pas. Et alors, à partir de cette découverte, eh bien, à la fois les Allemands et puis Roux en France se sont dit, mais ce sérum d'animaux immunisés, on pourrait l'utiliser comme antipoison pour essayer de guérir des enfants atteints de diphtérie.
Est-ce qu'il faut dire alors, que la diphtérie, c'est
alors, diphtérie, c'était une maladie épouvantable. On l'appelait le croup pour les enfants. Une maladie où, en fait, ils ne pouvaient plus respirer. Il y avait ce qu'on appelait des fausses membranes dans leur gorge qui les empêchaient de respirer. Et dit qu'ils mouraient dans des conditions d'étouffement absolument épouvantables. Et il y avait de l'ordre de 30 000 morts d'enfants mourant de diphtérie chaque année en France, à peu près pareil en Allemagne. Donc, il y a eu ce qu'on appellerait aujourd'hui un essai clinique fait en France, fait très bien, parce que ça a été fait dans deux hôpitaux différents, un où on a utilisé le traitement avec le sérum, ce qu'on appelait la sérothérapie, et l'autre où on l'a pas utilisé, et la différence a été du simple au double, c'est-à-dire que le nombre de morts a été beaucoup moins élevé quand on utilisait ce sérum. Donc ça a été, la même chose a été faite en Allemagne, mais il n'y avait pas le témoin, etc. C'était un petit peu moins bien fait là-bas.
Puis ils sont attaqués ils ont pris des animaux plus petits pour fabriquer le sérum. Que Roux va prendre ses chevaux.
Oui, c'est ça. Là, ça a été un point important.
Il y a une quantité importante.
Oui. Effectivement, il a pu, grâce à un vétérinaire qui s'appelle Nocard, qui a joué un grand rôle auprès de Pasteur, ils ont pu se procurer des chevaux. Et finalement, ils ont une véritable cavalerie pour l'Institut Pasteur qui a permis de faire ce sérum antidiphtérique. Donc ça a été le début de la sérothérapie antidiphtérique. Par la suite, les pasteuriens ont franchi une autre étape, alors des années plus tard, parce qu'on n'osait pas inoculer directement la toxine un peu inactivée aux enfants pour les immuniser, parce que cette toxine, elle pouvait faire du problème. Mais c'est Ramon qui a montré dans les années 1920 qu'on pouvait inactiver complètement la toxine en la traitant avec du formol et que cette toxine complètement inactivée immunisait. Et ça a été le vaccin contre la diphtérie que nous avons tous subi, si je peux dire, qui est une protection parfaite contre la diphtérie. Et Ramon a montré aussi que ça marchait aussi pour le tétanos, qui est une autre maladie extrêmement grave, et aussi le microbe fait une toxine, donc on fait une toxine inactivée, et c'est ça le vaccin contre le tétanos.
Ce qui est intéressant à la lecture de votre livre, Maxime Schwartz, c'est que on remonte à la surface la situation telle qu'elle était, je dirais, désastreuse dans ce monde infecté par tant de maladies, qu'on a oublié, qu'on a tendance à oublier, qui reprend vraiment toutes les grandes maladies, y compris ce qui va se passer quelques années plus tard en 14-18, où il y a d'autres maladies infectieuses, le tétanos en particulier, ou bien la gangrène, et donc la nécessité de protéger les soldats. Alors bien sûr, c'est un peu contradictoire, on protège les soldats des microbes, mais on les laisse tomber sous l'acier des bombes. Mais n'empêche que on va faire des progrès de compréhension des différents microbes avant que ne surviennent un peu plus tard les sulfamides et les antibiotiques qui vont être la grande révolution. Peut-être un mot, parce qu'on n'a pas le temps de les voir tous, j'aimerais que vous donniez un mot sur Yersin, un individualiste qui part du côté de Hong Kong, puis du Yunnan, qui va donc être le découvreur, on va dire, on peut dire comme ça, de la compréhension du mécanisme de la peste.
Oui, Yersin avait donc commencé un peu comme un élève de Roux. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est Roux et Yersin qui ont découvert la toxine diphtérique. Mais assez rapidement, Yersin avait envie d'espace, il avait envie d'être explorateur. Et il a quitté l'Institut Pasteur, il pensait quitter la microbiologie pour toujours. Il est parti en Extrême-Orient, sur la compagnie de navigation. Et il a été pendant un certain temps médecin de bord sur des bateaux qui cabotait au large de ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Et puis, il a fait ensuite des explorations alors sur le terrain, en Indochine, extrêmement intéressantes.
Et très risquées. Par des éléphants, par des hommes armés,
Attaqué par les éléphants, non. Il a utilisé les éléphants.
C'est ce que vous dites.
Oui, mais il s'est fait attaquer, effectivement, par des hommes armés. Enfin, c'était épique, effectivement. Mais il se trouve qu'au retour d'une de ces explorations, eh bien, on lui a dit que, il y avait un gros problème, qu'il y avait la peste dans le sud de la Chine, qu'elle risquait d'arriver en Indochine, et est-ce qu'il pourrait pas essayer de voir à quoi était due la peste, et est-ce qu'on pourrait faire contre. Et il est parti, c'est lui lui qui a décidé d'aller à Hong Kong. C'est pas là qu'on voulait l'envoyer, mais bon, il est parti à Hong Kong où la peste faisait des ravages. Là, il est arrivé, il a eu un problème parce qu'il y avait un Japonais qui s'appelle Kitasato, qui était en fait un élève de Cor, qui avait déjà été envoyé par le Japon, et puis l'Angleterre et le Japon, puisque c'était l'Angleterre qui était la maîtresse de Hong Kong à l'époque, ils s'entendaient bien et ils voyaient pas du tout d'un bon œil arriver ce Français-là.
Donc, en fait, ils ont kidnappé les autopsies. Voilà.
Alors,
en c'est disant, ça. Comme ça, on va l'empêcher de travailler. Voilà. Et lui, il a l'idée quand même d'aller prélever les bubons de la peste.
Mais il s'est débrouillé. Il a donné la pièce à les médecins, de façon à avoir quatre cadavres de gens qui étaient morts avant qu'on les recouvre de chaud. Et il est arrivé à trouver dans les bubons, parce que la peste donne des gros bubons, c'est des ganglions très gonflés. Et il a trouvé dans les bubons, ils étaient pleins d'un microbe particulier. Il s'est dit, ça doit être le microbe de la peste. Il a fait quelques expériences le démontrant. Et en une semaine, il a isolé les microbes de la peste, alors que Kitasato, pour des raisons variées, il est parti sur une mauvaise voie. Il a prétendu, et il y en a encore qui prétendent aujourd'hui, qu'il y a eu des co-découvreurs du bacille de la peste, Yersin et Kitasato, mais il est clair, en fait, pour tous les scientifiques, que c'est Yersin qui a découvert en une semaine le bacille de la peste. Et ensuite, alors, il y a un autre pasteurien qui s'appelle Paul-Louis Simon, qui a démontré en 98, ça c'était en 94, la découverte de Yersin. En 98, c'est Paul-Louis Simon qui a montré que le bacille de la peste, en fait, était véhiculé par des puces
sur les rats,
et que donc c'était à partir des rats pestiférés qu'ensuite les puces transmettaient la peste à l'homme.
Juste un mot sur Metchnikov, qui est une grande figure, déjà physiquement une belle image d'un russe ukrainien plutôt à l'époque, avec une grande barbe, qui va s'installer carrément à Pasteur, qui va en faire son lieu et qui va découvrir le principe même de la phagocytose, c'est-à-dire l'action des globules blancs qui viennent entourer donc les microbes pour essayer de les limiter, voire de les tuer. Enfin, il y a tout un tas d'histoires que malheureusement nous n'avons pas le temps de reprendre, mais je vous renvoie donc au livre passionnant de Pasteur et ses lieutenants, je dirais de Annick Perrault et Maxime Schwartz. Vous pourrez donc voir la mise en place des facteurs de vaccination. Évidemment, quand on lit ce livre, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a ce mouvement qui ne repose sur rien, qui est contre la vaccination, alors que la vaccination bien conduite, même s'il y a eu parfois quelques incidents, comme toujours dans les nouveautés et dans les découvertes, il y a tellement de bienfaits qui en ressort. Voilà, donc c'est une discussion que nous pourrons reprendre, sans doute à l'occasion de la poursuite de vos travaux, car je suis certain, Maxime Schwartz, que vous continuez à écrire.
Oui, on continue. On s'intéresse pour l'instant à un neveu de Pasteur.
Vous voyez, donc on sera amené à se revoir, à reprendre tout cela et à pouvoir illustrer donc les bienfaits des découvertes des découvreurs en médecine, et particulièrement des pasteuriens et de l'Institut Pasteur. Merci à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Pierre Monteil et Joséphine Lampréa. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur Pasteur, sur le site internet franceculture.fr, et réécouter autant que vous le souhaitez et vous inscrire pour le podcast, pour une écoute à la carte. Nous nous retrouvons demain avec le professeur Yves Pouliquen pour parler du grand Cabanis, médecin, philosophe, mathématicien, enterré au Panthéon. C'est dire que c'est un grand homme, mais relativement peu connu.